Alors aujourd'hui, on va poursuivre notre étude qu'on a débutée sur le livre de l'Ecclésiaste. On est rendu au chapitre 3. Aujourd'hui, on va étudier le chapitre 3, mais les 11 premiers versets. Donc, Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 11. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alors, le titre que j'ai donné au sermon de ce matin, c'est tout simplement « Dieu a préordonné nos circonstances de vie dans son décret éternel ». Alors, on va un peu poursuivre ce qu'on avait débuté la semaine dernière, soit regarder le rôle de la main de Dieu dans le déroulement de la vie des hommes. Alors, dans notre leçon de la semaine dernière, donc Ecclésiaste chapitre 2, versets 18 à 26, nous avions constaté que Salomon avait encore une leçon à apprendre, soit celle de reconnaître la place de la main de Dieu dans la correction de nos orientations, de nos illusions quant au sens de la vie, et la manière d'expérimenter le bonheur terrestre, de réviser nos attentes face à nos labeurs et à notre travail. Donc, on voit qu'une des choses que Salomon se devait de voir, c'était le rôle de correction de la main de Dieu dans nos vies. Le Seigneur devait également lui ouvrir les yeux sur son rôle de régulateur. Donc, les hommes doivent apprendre à se contenter des dons que Dieu leur offre, le manger, le boire, et aussi les plaisirs qui sont reliés au travail. Dieu avait aussi montré à Salomon son rôle de celui qui rétribue. Donc, il donne à celui qui lui est agréable, et il laisse au pécheur le mirage d'amasser des biens. Il redistribue aux sages les accumulations du pécheur. Donc, les 15 premiers versets du chapitre 3, c'est-à-dire, sont d'une grande richesse et serviront à nous faire comprendre le temps de Dieu. C'est important de réaliser dans cette section qu'on va étudier aujourd'hui, quand on parle de temps, c'est le temps de Dieu. Le chapitre 3e de l'Ecclésiaste est dominé par le thème central qu'est un temps pour tout. Notons bien que l'auteur de l'Ecclésiaste ne parle pas du temps de l'homme. Il a à l'esprit plutôt le temps de Dieu. Nul n'est vraiment maître de son temps. Seul le Dieu souverain contrôle absolument les événements, comme la naissance et la mort, et aussi l'ensemble de toutes les circonstances de la vie des hommes, tant individuellement que collectivement. Alors la joie et la peine, la victoire ou la défaite, le bonheur comme la tragédie, Le bien et le mal ne sont bons que parce qu'ils entrent dans les desseins divins, parce qu'au cours de l'histoire, Dieu œuvre en notre faveur. Le bien nous parvient par le canal de sa grâce, et le mal, lui, le fruit de l'esprit et du péché, trouve pourtant sa place dans ce même dessein pour le servir et pour accomplir sa sainte et mystérieuse, quoique toujours parfaite et sage, volonté divine. Aussi, tout est parfait. Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu se trouve à la barre. En dépit des orages déclenchés par les puissances diaboliques et des tempêtes soulevées par les irresponsabilités humaines. Alors, je conseillerais à ceux qui écoutent, s'ils veulent le faire, de télécharger la leçon, parce qu'il y a, dans la page 2, des informations qui sont importantes pour saisir l'ensemble de l'enseignement du chapitre 3, versets 1 à 11. Alors, pour ceux qui l'ont téléchargé, c'est comme un tableau, et c'est basé sur ceux qui ont étudié le livre plus en profondeur. Ils ont observé certaines choses. Par exemple, du verset 2 au verset 8, il y a 14 temps. Si on compte, par exemple, on dit il y a un temps de naître et un temps de mourir, donc c'est deux temps. Un temps de planter, un temps d'arracher, donc c'est quatre temps. Alors, si tu vas jusqu'à la fin, jusqu'au verset 8, tu vas te rendre compte qu'il y a 28 temps. Donc, 28, c'est 4 fois 7. 7, c'est le chiffre de la perfection. 4 fois, c'est le chiffre qui détermine l'exhaustivité, la complétude, autrement dit. Alors, c'est important de réaliser cela parce que on voit que il y a une structure qu'il est important de saisir pourquoi Dieu a organisé ça de cette façon-là. Alors, il y a 28 temps, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est 28 temps, mais composé de 14 paires. Ça marche toujours par paires, et ça marche par paires sous forme d'antithèse. Par exemple, on parle d'un temps de naître, un temps pour mourir. On ne parle pas de la même chose, on parle d'une antithèse. Naître et mourir, c'est complètement différent. Mais toutes les 14 paires sont basées sous forme d'antithèse, comme ça. Dieu prend un temps et il le met en opposition avec un autre, une antithèse. Si on saisit ça, on voit qu'il y a des choses importantes qu'on peut retirer, de juste comprendre la structure, comment Dieu a fait le chapitre 3, les versets 1 à 11. Alors, juste quelques observations sur la structure. Dans les versets 2 à 8, ça, j'ai trouvé ça dans The Reformation Heritage King James Version Study Bible. Alors, c'est une Bible d'étude anglophone. Et à l'intérieur de chaque chapitre, ils font des observations, ils font des applications qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours. Et ici, j'avais pris, dans les versets 2 à 8, ils font une observation que je considère extrêmement importante pour bien saisir l'ensemble de la leçon. Alors, voici ce qu'il dit, c'est une traduction. Autrement dit, je l'ai pris dans une version anglaise. Je l'ai mis dans Google Traduction. Ensuite, j'ai fait quelques petites corrections et j'ai mis des mots soit en italique ou soit soulignés ou soit en gras. Et c'est pour que les gens qui vont lire puissent saisir la structure de ce passage-là. Il est important de la saisir. Alors, je vous lis ce que j'ai mis sur Google Traduction et je vous donne la traduction française ici. En énumérant 28 moments spécifiques qui se produisent dans 14 paires de circonstances opposées, je vous disais tantôt les antithèses, le prédicateur emploie des dispositifs littéraires conçus pour exprimer la totalité. Les deux nombres sont des multiples de 7 qui sont fréquemment utilisés pour représenter l'exhaustivité. Le 28 fois est un exemple de brachylogie, qui est l'utilisation d'une liste partielle pour désigner la totalité. Les 14 paires d'opposés sont un exemple de mérisme, l'utilisation de termes polaires pour désigner l'intégralité. Le point est clair, même sans considérer les déclarations individuelles. Il y a un temps déterminé pour tout. La vie se déroule selon la providence divine, tout de la naissance à la mort. Alors, je reviens un petit peu sur les idées importantes là-dedans. On parle des paires de 28, c'est un multiple de 7. 14, c'est aussi un multiple de 7. Donc, on dit que les deux nombres, 14 et 28, sont des multiples de 7 et sont utilisés pour exprimer la totalité, la globalité, l'exhaustivité. Quand on dit de quelque chose qu'il est une liste exhaustive, c'est une liste la plus complète possible. Alors, c'est important de saisir ça, parce que ce qu'il veut dire, c'est que, dans le fond, Dieu, de toute éternité, a décrété nos circonstances dans les moindres détails de toutes nos vies. Ce qui n'empêche pas l'exercice de la responsabilité humaine. Ça, c'est quelque chose de difficile à comprendre pour nous, parce qu'on est porté à se dire, ben, si c'est Dieu qui a décrété telle affaire qui va arriver dans nos vies, ça va arriver, et moi, je n'y suis pour rien, je ne peux pas rien faire. C'est faux. La Bible enseigne à la fois la parfaite souveraineté de Dieu et à la fois aussi que l'homme est responsable. Alors les deux, je me souviens d'avoir entendu une image dans un sermon, quelqu'un disait, c'est deux choses parallèles, c'est un peu comme des voies ferrées. Il y a une voie d'un côté, c'est la souveraineté de Dieu, sur l'autre côté, c'est la responsabilité humaine. Ils marchent toujours de façon parallèle et ils disaient qu'ils ne vont se rencontrer qu'au pied de Dieu. Alors, c'est intéressant comme idée. Et autre observation sur la structure avant qu'on commence notre étude proprement dite, c'est le verset 11. Il dit « Il a tout fait beau ». On pourrait apprendre à dire « beau » ou « bon ». Il a tout fait beau, il a rendu tout juste ou approprié en son temps. Cela équivaut à Romains 8, 28, qui déclare que Dieu fait tout pour le bien. La vie ne se produit pas au hasard, par un destin aveugle, mais selon le plan infiniment sage de Dieu, le monde dans leur cœur. Presque partout ailleurs, le terme hébreu, traduit par « monde », fait référence à l'éternité. Ça fait quand il dit qu'il a mis le monde dans leur cœur, il est en train de nous rappeler que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. C'est une clé pour comprendre pourquoi les choses temporelles de la vie sous le soleil ne peuvent finalement pas nous satisfaire. Bien que chaque homme soit mortel sous le soleil, il vivra quelque part pour toujours. La seule source de satisfaction pour l'éternité en nous, est le Dieu éternel. Aucun homme ne peut le savoir. Le plan de Dieu est beau, mais sa portée nous est incompréhensible. Alors, c'est important, si on saisit un petit peu le but de la façon dont le livre est structuré, pas le livre, mais le chapitre 3, ça va nous aider grandement à comprendre. C'est pour ça que j'ai pris la peine de faire ce tableau-là, pour qu'on le voit qu'il y a 28 temps, il y a 14 paires, et tout ça, c'est significatif, c'est fait pour des raisons bien particulières. Et pour démontrer que c'est vraiment, on parle du décret de Dieu, que Dieu a préordonné toutes les choses de nos vies, c'est juste le verset quand il nous dit « un temps pour naître, un temps pour mourir ». La Bible nous dit que ce n'est pas nous autres qui a décidé un jour. Ben là, moi, je nais, là. Dieu a eu... Il y avait un moment précis qui était dans son plan pour notre naissance. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi... Il a aussi un moment précis pour notre décès, notre mort. Et non seulement la nôtre, mais celle de tous les hommes, de toutes les époques, de tous les temps. Alors, le premier point qu'on va regarder, c'est le décret divin identifié. Autrement dit, le premier verset, le verset 1, nous montre que c'est ça qui se passe. On vit sur la terre, mais nos circonstances ont été décrétées par Dieu, mais sans enlever nos responsabilités humaines. C'est très difficile à concilier. De toute façon, c'est pas conciliable. On ne peut pas comprendre globalement le plan. On n'a pas ce qu'il faut pour comprendre ça. Alors, le premier verset vient donner le principe général pour la compréhension du chapitre 3. À toute chose sa saison, et à toute affaire sous les cieux son temps. Alors, dans les affaires humaines, la providence arrange le moment où tout doit arriver, la durée de son opération et le temps qui s'y prête. Le point de vue de l'auteur englobe toutes les circonstances de la vie des hommes depuis son commencement jusqu'à la fin. Et quand on regarde ça, là, puis qu'on voit une phrase semblable, depuis le moment, moi, dans mon cas, c'est le 21 septembre 1946, à 4h du matin, 4h31, je pense, quelque chose comme ça, là. Je suis pas absolument sûr de ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que pour Dieu, le moment précis de ma naissance, l'endroit, toutes les circonstances, mon poids, tout, la couleur de mes yeux, etc. Alors, si on commence à partir du moment où tu es né, à venir jusqu'au moment où tu vas décéder, on sait qu'on vit une très grande variété d'expériences. Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre quand il dit qu'il y a un temps, à toute chose sa saison. Alors, c'est lui qui détermine le début, c'est lui qui détermine. On sait, une saison, ça a toujours un début puis une fin. Alors, dans la vie, il y a des saisons. Il y a la saison de la jeunesse, il y a la saison du mariage, il y a la saison de toutes sortes d'autres de saisons. Il dit à toute chose sa saison et à toute affaire sous les cieux son temps. Mais ce qu'on veut, qu'on se doit de comprendre ici, c'est que c'est le temps de Dieu. Alors, Salomon vient ici confirmer sa pensée qu'il a développée dans le chapitre 2, que la sagesse, la richesse, le succès, le bonheur ne sont pas dans les mains de l'homme. Alors Salomon a compris que l'homme ne peut pas par ses propres efforts, ce qu'on pourrait dire sécuriser, c'est-à-dire être absolument sûr de les conserver parce qu'elles sont distribuées par la main souveraine et sage de Dieu. Autrement dit, quand on parle de richesse, autrement dit, si Dieu a décrété dans l'éternité, que tu connaîtrais l'expérience de la richesse, mais aussi, il y a des hommes qui ont connu l'expérience de la richesse, mais que Dieu a permis qu'ils perdent leurs affaires. Fait que, ce qui est important de réaliser, c'est que les événements qui arrivent dans nos vies ont été préordonnés de Dieu, ont été décrétés de Dieu, mais il est important aussi d'ajouter, sans enlever notre responsabilité humaine, et c'est là que les hommes ont difficulté à comprendre ça. Je pense que c'est juste par la foi, on peut dire oui, les Écritures enseignent les deux, on se doit de l'accepter les deux sans chercher à vouloir comprendre dans tous les détails, parce que Dieu nous dit dans le verset 11 qu'on ne peut pas comprendre tout du début à la fin, tout aussi simple que ça. Alors, Salomon va ici établir son affirmation, il va rentrer dans les détails. Il va nous montrer l'ordre, la providence, et il va nous montrer aussi la suprématie de Dieu dans toutes les affaires des hommes, les plus triviales comme les plus importantes. Autrement dit, il n'y a pas rien dans ta vie qui arrive, même si à tes yeux c'est une affaire petite, et où, bien c'est sûr, comme prenons l'exemple de quelqu'un qui est marié, il perd son épouse, c'est pas trivial, c'est une grosse affaire. Mais des fois, il arrive des événements dans ta vie qui sont petites, mais qui vont avoir un impact grand sur ta vie. Prenons par exemple, je sais pas, quand on a reçu l'Évangile, soit par l'intermédiaire d'une personne, soit par l'intermédiaire d'un écrit, un traité, ou quelque autre moyen que le Seigneur a voulu, à quelque part, c'est pas grand-chose, quelqu'un qui te donne un traité, c'est un morceau de papier qui te remet dans les mains, mais pourtant, l'événement qu'on pourrait dire trivial a une importance considérable sur ta vie. Alors, Salomon, ici, n'essaie pas de réconcilier l'apparente contradiction du décret divin et de la responsabilité humaine. Tous les événements de nos vies sont sous l'absolu contrôle de Dieu, donc dans leur durée, leur exacte durée, et leurs buts sont prédéterminés. Non seulement Dieu permet que telle ou telle affaire, leur durée, par exemple, prenons un deuil. Pour certains, les deuils ils vont vraiment se prolonger longuement. Pour certains autres, au bout d'un an ou deux, je dis pas que c'est complètement disparu, mais c'est comme atténué beaucoup. Et aussi, il y a des buts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la durée des événements qui arrivent dans nos vies, qu'ils soient à nos yeux bons ou douloureux, et il y a aussi un but. Un peu comme Romains 8, 28 nous dit, toutes choses contribuent ou travaillent ensemble au bien de celui qui aime Dieu. C'est important de le réaliser parce qu'à ce moment-là, si vraiment on s'arrêtait, qu'on comprenait vraiment là, ce passage-là de façon correcte, jamais on ne régimberait, jamais on ne ruerait dans les brancards, selon l'expression, et on serait toujours... je dis pas que ça éviterait la douleur, mais ce que ça ferait, c'est qu'on reconnaîtrait la main de Dieu là-dedans, sa sagesse, son amour, et la raison pour laquelle il le fait, on saurait du fond de notre cœur, même si c'est douloureux, que Dieu l'envoie pour notre bien. Alors, le psaume 31, au verset 16, nous rappelle ces choses-là, quand ça dit « Mes temps sont en ta main ». Donc, à quelque part, on reconnaît que Dieu, tout ce qui arrive dans nos vies, sont dans la main de Dieu. Alors, sans rentrer dans les détails d'une bonne et exhaustive explication, notons la grande sagesse de notre confession de foi, soit la confession de foi baptiste de Londres de 1689. Dans ses articles sur le décret de Dieu et sur la providence de Dieu, pour nous aider à faire le lien avec ce que nous nous apprêtons à étudier. Bien sûr, ici, là, je suis allé chercher dans la confession de foi, au chapitre 3, le paragraphe 1, et au chapitre 5, le paragraphe 1. Mais il faut bien comprendre que si on veut vraiment étudier le décret de Dieu, il ne faut pas regarder juste le paragraphe 1 quand on va dans la confession de foi. Il faut étudier tous les paragraphes qui concernent ces choses-là. Mais le but, pourquoi je les ai amenés, c'est pour nous faire comprendre que nos prédécesseurs, la confession de foi, avaient réfléchi beaucoup à ces choses-là. On n'est pas les premiers croyants qui réfléchissent sur des passages. Alors, sur des passages ou sur la Bible dans son entièreté. Alors, quand on regarde ici, je veux simplement relire lentement, de manière à ce qu'on saisisse qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par rapport, par exemple, au décret de Dieu. Le décret de Dieu, qu'est-ce que c'est? Avant qu'on commence, là, c'est que Dieu, de toute éternité, a décidé de toutes les choses qui étaient pour arriver dans la vie de tous et chacun durant de toute la terre, dans les moindres détails. C'est ça qu'on appelle le décret de Dieu. Alors, le but du chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 8, c'est vraiment pour nous montrer qu'il n'y a pas un aspect de nos vies qui n'est pas inclus dans le plan de Dieu. Alors, on relit le chapitre 3, le paragraphe 1, sur le décret de Dieu de la confession de foi baptiste de Londres de 1689. Je vais la lire lentement parce que c'est quelque chose qui a besoin d'être médité, compris, prié. Et là, ici, je n'ai pas mis aussi tous les versets parce que quand on prend dans une confession de foi comme ça, on dit une phrase souvent et on va mettre un petit numéro. Là. Le petit numéro correspond à des versets. Je ne les ai pas mis ici parce que ça aurait été trop long. Mais dans le fond, c'est de comprendre l'idée. Alors, ça dit « De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive, de telle manière cependant qu'il n'est pas l'auteur du péché, non plus qu'il n'a de communion avec quiconque à cet effet. Sans faire violence à la volonté de sa créature, et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui, librement, dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité pour l'accomplir. Alors, bien sûr, on aurait beaucoup de choses à dire ici si on voudrait rentrer dans les détails de ça. Mais ici, je pense que l'idée principale, c'est de reconnaître que de toute éternité, Dieu a décrété en lui-même, librement, immuablement, tout ce qui arrive. Alors, quand on vit quelque chose au courant d'une journée, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'était dans le décret de Dieu? Oui. Il faut que ça soit dans le décret de Dieu, parce que Dieu a décrété tout ce qui arrive depuis le début de l'humanité à aller jusqu'à la fin. Et ça, ça comprend nos circonstances individuelles. Ça comprend aussi les circonstances collectives des pays, des nations, de l'Église, etc. Alors, on va lire aussi le deuxième. Alors, on a parlé du décret de Dieu, qui vient de la Confession de foi baptiste de Londres de 1689. Puis on a aussi un paragraphe. Mais il y a plus qu'un paragraphe, parce que dans le fond, on dit chapitre 5, il y a plus qu'un paragraphe 1. Je vais vous lire simplement le paragraphe 1, dans le but, c'est le but de nous montrer le rôle de la providence divine dans le plan de Dieu. Alors, ça dit, « Dieu, le bon créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, dispose, et gouverne toutes les créatures et toutes les choses, des plus grandes ou plus petites, par sa très sage et sainte providence, aux fins pour lesquelles elles ont été créées. Il le fait selon sa préscience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. » Alors, bien entendu, quelqu'un qui voudrait bien comprendre verset 3 à 11, du chapitre 3, verset 1 à 11 du chapitre 3, aurait intérêt à aller réétudier, réviser tous les versets qui sont mentionnés sur ces deux chapitres-là, celui sur le décret de Dieu, celui sur la providence divine. Alors, on a d'abord établi le décret divin identifié, qui est le verset 1. Maintenant, on va regarder le décret divin illustré. Autrement dit, il ne faut pas juste faire une affirmation générale, il vient ensuite illustrer point par point ce qu'il veut dire par l'affirmation générale. Alors, verset 2 à 8, c'est vraiment le décret divin illustré. Dans le verset 1, Salomon a établi le principe général de la souveraineté et de la suprématie de Dieu dans nos circonstances. Il va maintenant entrer dans les détails spécifiques pour illustrer son affirmation. Alors, gardons l'esprit, les observations de notre introduction, soit les 28 ans en 14 pères. Alors, ceux qui ont téléchargé les notes, vous pouvez mettre le plan devant vous et ça nous donne vraiment l'illustration, la compréhension que c'est vraiment organisé. Il y a 28 temps, si tu prends le temps de compter, là, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, ça c'est deux. Et si tu continues comme ça jusqu'à la fin du verset 8, tu vas voir qu'il y a 28 temps et tu vas te rendre compte de notre affaire, c'est que c'est 28 temps en 14 paires de choses antithèses, naître, mourir, etc. Alors, ça a été fait dans un but précis. Le but, c'est de nous montrer qu'il n'y a pas une circonstance de nos vies, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas un aspect de nos vies que Dieu n'a pas planifié, n'a pas décrété les choses qui vont nous arriver. Mais comme on l'a mentionné, on le répète encore, sans enlever la responsabilité humaine. Alors, on va prendre, si on dit qu'il y a 14 paires, on va marcher par paires. La paire numéro 1, qui est dans le verset 2a, on pourrait dire la première partie du verset 2, qui nous dit, Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Le Seigneur a décrété les circonstances de notre naissance et aussi de notre mort. N'oublions pas que l'immortalité était la condition de l'homme avant la chute et que le péché a introduit la mort. Si on lit par exemple Romains au chapitre 5, le verset 12, ça dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Alors, verset Romains 5, 12 est un verset extrêmement riche, extrêmement profond. Alors, il faudrait prendre du temps pour l'exposer, mais ce n'est pas le but ce matin d'étudier Romains. Je pense que là-dedans, c'est juste de se rendre compte, comme les Écritures nous enseignent, que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Quel homme il parle? Il parle d'Adam. Mm. Et par le péché, la mort... parce que le Seigneur avait averti Adam que s'il mangeait du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, qu'il dit « tu mourras certainement ». Alors, depuis la chute, l'homme, bien sûr, connaît la naissance, mais aussi à cause du péché qui s'est introduit dans le monde, il connaît la mort. Alors, allons voir des passages qui viennent nous parler de, par exemple, de notre naissance. Dans le psaume 139, les versets 15 à 16 nous disent « Mes os ne t'étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret, ouvré comme un tissu dans les lieux bas de la terre. Tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés quand aucun d'eux n'exista. » Comment dire, l'Écriture est en train de nous dire que le nombre de jours qui nous est assigné dans la vie a été déterminé par Dieu lui-même, et ta mort n'arrivera certainement pas avant que le Seigneur... parce que le jour qui a été décrété, il va arriver le jour et l'heure, et par la manière et dans les circonstances que Dieu a décrété. Maintenant, allons faire aussi quelques observations sur les circonstances de notre mort. Dans Job, au chapitre 14, les versets 5 et 6, ça dit « Si ces jours sont déterminés, si le nombre de ces mois est fixé par devers toi, si tu lui as prescrit des limites qu'il ne passera pas, » qu'est-ce que c'est en train de dire? Nos jours sont déterminés, le nombre des mois est fixé, et ça dit que Dieu a mis des limites qu'on ne pourra pas dépasser, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Et un autre passage intéressant concernant notre mort aussi, c'est Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8a, donc la première partie du verset 8, qui dit « L'homme n'est point maître de son esprit pour pouvoir le retenir, et il n'a point de puissance sur le jour de sa mort. » Ça, je me souviens d'avoir entendu parfois dans des conversations d'êtres humains dire « Ah, ben, il n'est pas décédé avant que son oncle vienne ou sa tante vienne. » Ou que quelqu'un qui décide, il est sur son lit de mort, puis il dit « Ben non, moi, je ne mourrai pas aujourd'hui, je vais mourir quand ça va me tenter, je vais mourir quand je vais être prêt. » Ou « Je vais mourir quand tel événement va arriver. » Dieu peut permettre que ce que tu dis peut arriver, si lui décide que c'est ça. Mais en gros, ce que ça vient nous dire, c'est que l'homme n'est point maître de son esprit pour pouvoir le retenir. Comment tu diras sur ton lit de mort, « Ah ben là, moi je ne mourrai pas, il n'y a pas question que je me laisse aller, ben tu vas partir. » C'est aussi simple que ça. Et Hébreux, chapitre 9, verset 27, nous dit une autre chose importante concernant la mort. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement. » Alors juste dans le verset 2a, un temps pour naître, un temps pour mourir. On pourrait développer énormément, beaucoup plus que ça. Mais dans le fond, c'est pour nous montrer que, à partir, c'est pas pour rien que dans le verset, la première illustration que le Seigneur a voulu donner au principe général du verset 1, il a commencé par la naissance puis la mort. Donc, autrement dit, il est en train de dire tout ce qui va se passer entre le moment où tu es venu au monde et le moment où tu vas décéder. Toutes choses ont été prévues, déterminées, décrétées par Dieu lui-même. On va regarder la paire numéro 2. On a regardé la paire numéro 1, là. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Maintenant, on va regarder le verset 2b, donc la deuxième partie du verset 2. Il dit, il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. Alors, on sait par des chapitres précédents que Salomon avait richement expérimenté, par exemple, quand on dit planter, il avait expérimenté le jardinage, il avait expérimenté l'arboriculture, ça veut dire la culture des arbres, planter des arbres, parce qu'il nous le dit et il y avait aussi l'horticulture. Il connaissait, comme ça disait, beaucoup les fleurs, les plantes, les animaux et plein d'autres choses. Mais en particulier, c'est un verset qu'il pouvait comprendre mieux que quiconque parce qu'il avait été beaucoup très loin à l'intérieur de ça. Alors le jardinage, l'arboriculture, l'horticulture et des travaux agricoles. Il avait fait des travaux agricoles au cours de sa vie énormes. Alors quand on dit un temps pour planter, Salomon comprenait très bien qu'est-ce que ça voulait dire. Dans Ecclésiaste chapitre 2, le verset 4 à 6, c'est là qu'il nous raconte ce qu'il a fait. Il dit, « J'ai fait de grands ouvrages. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis fait des jardins et des vergers. Et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs d'eau pour en arroser le parc planté d'arbres. » Donc, on voit qu'à l'intérieur de ces deux versets-là, il y a deux fois « je me suis planté » et il parle de « planter d'arbres ». Alors, il connaissait très bien le principe de planter. Mais, bien sûr, s'il a fait des jardins, Salomon connaissait aussi qu'il faut planter pour ensuite récolter. S'il parle d'arbres fruitiers ou s'il parle de jardins, c'est sûr que ces choses-là arrivent. Autre chose, ici, on prend l'expression « un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté » dans le sens littéral du mot, comme on parle d'un jardin, qu'on parle de planter des arbres. Mais il y a certains auteurs qui voient aussi un sens symbolique à l'intérieur de ça. Alors, si on retourne, par exemple, dans le livre de Daniel, au chapitre 4, verset 23, à 25. Le Seigneur a utilisé l'image d'un arbre qu'il voulait couper pour parler du royaume de Nebuchadnezzar. Et il a fait la même chose aussi pour représenter la nation d'Israël par une vigne. Alors on va les regarder les deux passages où ça aurait du sens que de donner un sens symbolique à planter puis à arracher. Alors, ça dit dans Jérémie, chapitre 2, verset 21, et c'est le Seigneur qui parle, il dit, « Et moi, je t'avais planté comme une vigne excellente, dont tout le plant était franc. Comment t'es-tu changé pour moi en sarment de vigne étrangère? » Donc, on prend l'exemple que Dieu dit qu'il l'avait planté Israël comme une vigne. Et on peut regarder aussi Jérémie, chapitre 1, verset 10, où il dit, Dieu dit à Jérémie, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Quand on regarde le verset 2, on le revise, le verset 2b, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté. Alors parfois, le Seigneur, les deux sont vrais. que ce soit qu'on le voit de façon littérale ou qu'on le voit de façon symbolique, les deux sont vrais. Alors, ce qu'on va faire, on va arrêter la leçon aujourd'hui, parce qu'il y en a encore beaucoup à dire. Donc, on terminera la leçon la semaine prochaine.